on va parler de suivre l'influence des bonnes sources. Vous savez qu'on est le résultat de ce qui nous a influencés. Évidemment, on a tout un ADN, une ADN. On a hérité de nos parents, génétiquement. Mais une bonne partie de notre comportement vient de ce qui nous a influencés. Certaines ont été de bonnes influences, d'autres non. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai commencé à jouer de la musique jeune, et puis mon groupe mythique, là, celui qui m'inspirait, c'était Rush. Vous savez, la basse que vous voyez à l'écran, c'est pas pour rien que j'ai acheté cette basse-là, parce que Geddy Lee avait une Rickenbacker 4001. Puis moi, je voulais, puis tu sais, leur coupe de cheveux, comment qu'ils s'habillaient, je veux dire, moi, c'était Rush. Même une fois, je faisais semblant de dormir chez un ami. Puis, un des gars, Bernard, il dit, on va le faire rire. Pour voir. Il essayait de me faire rire pour voir si je dormais ou pas. Il a juste dit le mot « rush ». Je suis parti à rire. J'étais identifié, j'étais étiqueté « rush ». Maintenant, vous, c'est peut-être pas le groupe « rush », c'est peut-être un autre groupe de musique. C'est peut-être des comédiens, des politiciens, des vedettes qui ont influencé vos idées, vos modes de vie. Peut-être c'est vos parents, c'est des amis. Et ça, c'est des sources extérieures. Mais on peut être influencé aussi par nos sentiments, notre intuition, la raison qui nous interpelle dans notre conscience. Évidemment, on peut être influencé par des mauvaises personnes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que de ne pas s'y tromper, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais ce que j'ai trouvé remarquable la semaine dernière dans l'actualité, c'est qu'il y a entre autres deux humoristes qui ne se sont pas laissés influencer par ce que Richard Martineau appelle la gang. La gang, c'est ce groupe, si on veut, de vedettes qui imposent leur régime, qui imposent leur idéologie. Puis dès qu'on sort de ce courant-là, eh bien, on ne fait plus partie de la gang. Et il y en a deux qui ont refusé de se plier, qui ont résisté à cette mauvaise influence-là. Et que vous les aimiez ou non, c'est Peter McLeod et François Massicotte. En quoi ils se sont distancés de la gang? Eh bien, ils ont pris position dans l'affaire Jérémy Gabriel contre Mike Ward. Pour vous mettre dans le contexte, vous pouvez aller sur Facebook, sur la page de Réal Gaudreau, il y a 1000 vidéos. Mike Ward s'est moqué de ce petit garçon-là quand il avait chanté devant le pape, tout ça, parce qu'il y a un handicap. Il parle un peu bizarrement, puis il a ri de lui, puis il a été vraiment méchant à son endroit. Puis pendant 230 spectacles, il s'est moqué de lui. Alors, lui et sa mère, ils ont demandé qu'il s'excuse, puis il n'a pas voulu. Donc, Mike Ward a été poursuivi en cour, et Mike Ward a perdu. Et là, au nom de la liberté d'expression, la gang des humoristes se sont dit, on va appuyer Mike Ward, parce que si la cour est en train de nous museler en tant qu'humoriste, eh bien, ça va à l'encontre de la liberté d'expression. Mais ce que François Massicotte a dit, lui, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est dans le journal de Montréal. Il dit, « Pour ma part, en tant que père de 4 enfants, je suis d'accord avec la décision du juge. Le droit à la dignité doit prévaloir. Je suis satisfait de savoir que si quelqu'un s'acharne à rire du handicap d'un de mes enfants, je vais pouvoir le poursuivre. » Et il va être dit dans le texte un peu plus loin. François Massicotte mentionne également qu'il n'est pas inquiet pour la liberté d'expression, puisque ce cas-ci est un cas extrême selon lui. Donc, il ne s'est pas laissé influencer par la masse, par la gang. Il a émis son opinion contre vents et marées. Et peut-être que toi, tu vas te dire, « Oui, mais moi, je suis tellement influençable, c'est difficile pour moi de ne pas suivre le courant. » Mais je me souviens, à un moment donné, au début de ma vie chrétienne, j'avais entendu un message qui m'avait tellement frappé, parce que dans ce message-là, à un moment donné, le pasteur a dit, « T'es-tu quelqu'un d'influençable? C'est bon, c'est excellent. Dieu a besoin de gens influençables parce que Dieu veut t'influencer par sa parole. Si tu es influençable, tu es le meilleur candidat pour que sa parole t'influence. Et si nous, si toi en tant que disciple, tu veux être une source d'inspiration puis tu veux influencer des gens, il y a une notion que tu dois saisir et John Maxwell nous dit que l'amour est la motivation par excellence pour un leader qui veut s'entourer. Et c'est pour ça qu'on va voir dans le passage qu'on va lire ensemble qu'il y a différentes influences qui peuvent avoir un impact sur notre vie. La majorité sont positives, mais il y en a une évidemment qui est négative. Et on va voir celle du Père et du Fils, celle des Saintes Écritures et celle de notre adversaire. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse se recueillir pour qu'on puisse avoir un cœur et des oreilles disposées à entendre ce que Dieu veut nous dire, pour qu'on puisse méditer cette semaine ce que le Seigneur aura déposé dans notre cœur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu veux prendre soin de nous. Tu veux nous démontrer, jour après jour, que même si parfois la vie peut être difficile, même si parfois la vie est remplie d'embûches, d'obstacles, tu ne nous as pas abandonnés. Tu es fidèle à tes promesses. Ton plan est parfait pour nos vies. Et merci de nous instruire pour que tu puisses être, Seigneur, la source d'influence de notre vie. Que ta parole, tes saintes écritures puissent nous influencer dans tes voies, dans ton plan, dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Puisses-tu nous parler spécialement aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ici, c'est un passage qui parle justement des petits enfants, des jeunes gens, des pères. John Maxwell encore en parle dans sa Bible qui s'appelle The Leadership Bible, parce que lui, il a soutiré dans la Bible tous les exemples, tous les passages qui parlent de leadership. Lui, ce qu'il va dire, c'est que par exemple, c'est trois stages. Quand on est un petit enfant ou un disciple, on trouve la paix avec Dieu puis le pardon de nos péchés. Si on fait partie des jeunes gens, bien, on est impliqué dans le combat spirituel puis on a vaincu l'opposition. Puis si on fait partie des pères, on a développé une intimité avec Dieu. D'autres vont dire que ce n'est pas nécessairement trois catégories de personnes parce que l'auteur ne les met pas en ordre chronologique, ces petits-enfants, jeunes gens, pères. Au contraire, il va parler des petits-enfants, des pères, puis après ça, des jeunes gens. Et puis, donc, ça ne pourrait pas être non plus en fonction de l'âge. Un autre argument, c'est que Jean appelle tous ses lecteurs petits-enfants. On le voit à quatre reprises dans cette lettre-là. Donc, il y en a qui vont dire que c'est trois contextes différents dans lesquels un seul disciple peut se retrouver. Mais il reste que, pour chaque catégorie, il va dire « Je vous écris, petits-enfants, je vous écris, père, je vous écris, jeunes gens », comme s'il parle à trois groupes. Et donc, c'est ce genre de réflexion, quand on analyse ça, qui, moi, je m'en remets à Romains 14. En Romains 14, il dit « Ayez pas des querelles pour savoir qui a raison dans tous ces clans-là. C'est pas nécessaire. Ça cause juste des divisions, ça. Que vous soyez comme d'une école ou d'un penchant d'un côté ou de l'autre, puis que vous soyez capable de le soutenir, ça a sa place. Mais qu'on ait des querelles pour ces points-là, c'est pas nécessaire et c'est un manque de maturité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque catégorie, que ce soit petits-enfants, que ce soit pères ou que ce soit jeunes gens, comprendre qu'est-ce que le texte veut nous dire là-dedans, puis est-ce qu'on se trouve dans cette catégorie-là à un moment donné de notre vie? Est-ce qu'on est à cette étape-là dans, je sais pas, dans ta relation de couple? Est-ce que tu es dans cette étape-là, dans ta relation avec tes enfants? Est-ce que tu es à cette étape-là dans ton rôle au travail, avec tes amis? Et c'est ça qu'il faut voir et se laisser instruire à ce moment-là. Et donc, quelles sont les influences les plus percutantes? Eh bien, l'influence du Fils et du Père. Au verset 12, il dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Évidemment, on parle du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés, en passant. Et ici, Jean est en train de nous dire vos manquements. Parce que le mot péché, dans l'original grec, c'est de manquer la cible, de passer à côté. Donc, nos manquements, nos fautes, nos erreurs, nos rébellions, nos transgressions, nos péchés. Donc, il est en train de nous dire, je vous écris, petits enfants, parce que vos manquements face à la loi qui nous condamnait, et face à la nouvelle alliance à laquelle nous sommes redevables, sont partis de vous-même. Si on étudie le temps du verbe, c'est une action passée qui a des effets au présent, qui n'a pas besoin d'être répétée parce qu'elle est accomplie. C'est accompli, nos péchés sont pardonnés. Lorsque quelqu'un a réalisé qu'il est fautif devant Dieu, qu'il est rebelle à Dieu, mais qu'il réalise que il a été pardonné par Jésus-Christ à la croix. Et puis là, il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Ses fautes sont pardonnées. Sa dette est payée. On l'a chanté tout à l'heure. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je sais que je suis un rebelle devant Dieu qui a été pardonné. Et je dois continuellement, même si je suis sauvé, continuellement me rappeler que j'ai été pardonné et que ça a été fait une fois pour toutes. Et c'est pour ça que je peux marcher en tant qu'un enfant de Dieu. Et parfois, je marche d'une manière digne, d'autres fois, je ne marche pas nécessairement d'une manière digne, mais c'est là que je dois revenir à la croix et me rappeler cette notion fondamentale que mes péchés sont pardonnés. Tu as commis une faute, ta conscience t'accuse, tu viens à Dieu, tu l'avoues, puis tu te rappelles, puis tu le remercies de ce que ça l'a été payé, cette faute-là. C'est comme si tu arrives au magasin, tu arrives à la caisse, tu t'en vas t'acheter une tablette, tu arrives à la caissière, tu dis, vous pouvez partir. Ben pourquoi, je ne veux pas la voler. Non, elle a été payée. C'est payé. Tu peux partir libre maintenant. Tu n'as pas besoin de la payer, c'est payé. Il y a quelqu'un qui est venu la payer pour toi. Certains vont dire, mais on va pouvoir pécher comme on veut puis faire ce qu'on veut parce que la dette est payée. Non, non, non. Ce que ça produit dans le cœur, quand tu sais vraiment que tu es coupable devant Dieu puis qu'il te renvoie libre, ça produit une reconnaissance, ça produit une humilité, ça t'enlève le goût de continuer à commettre la faute. Ça, c'est le résultat, c'est l'effet de cette bonne nouvelle-là. Au verset 13, il va dire, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Et au verset 14, il va réécrire, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Jean, il répète. Vous savez, Joseph, dans l'Ancien Testament, quand il interprétait les rêves, tu sais, pour donner la signification, puis il disait que quand Dieu parle deux fois, c'est que la chose est arrêtée. C'est vraiment une insistance pour dire, je vais agir comme ça. Et ici, Jean, il tient à ce qu'on, j'allais dire qu'on catche le message, mais les gens qui nous écoutent en France ne comprendront pas, mais qui puissent saisir, mes frères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et ici, le mot « connaître », c'est une connaissance expérimentale. « quand Adam a connu Ève, ils ont eu des enfants. C'était un mot qui était utilisé pour justement parler de cette intimité-là, de cette expérience. De la même manière que les disciples, quand ils étaient avec Jésus, on voit ça dans Marc 8, les versets 2 et 3, la foule était réunie depuis quelques jours, puis elle écoutait Jésus, puis à un moment donné, Jésus est pris de compassion, puis il dit, « Hey, cette foule-là, elle a faim. Il faut leur donner à manger. » Et là, les disciples disent, « Ouais, mais avec quoi on va leur donner à manger? » Et c'est là que Jésus a multiplié les pains pour les nourrir. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Il a été justement ému de compassion. Et eux, les disciples, n'ont pas simplement entendu un message de compassion, ils ont été témoins, ils ont expérimenté d'une manière présente, vivante, la compassion de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Pas seulement qu'intellectuellement on connaisse, mais qu'on expérimente qui il est. Qu'on vive en fonction de qui il est. Et c'est ça le témoignage qu'on rend. Quand on verbalise, quand on exprime un témoignage, c'est notre témoignage de ce qu'on a expérimenté avec Dieu. Et qui est conforme à la parole de Dieu, qui se vérifie par la parole de Dieu, qui va en droite ligne avec ce que Dieu dit. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui pratique une religion, entre guillemets, et un disciple de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse connaître d'une manière expérimentale toutes les dimensions de Jésus-Christ qu'on a besoin pour son plan dans nos vies, dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et c'est pour ça qu'il veut nous donner justement l'influence. Il veut nous démontrer, Jean, l'influence non seulement du Fils, mais également l'influence du Père. Au verset 13, « Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Ici aussi, c'est une connaissance intime. Et au Québec, on a tellement besoin de connaître Dieu le Père parce qu'énormément de Québécois sont carencés par l'absence physique et par l'absence relationnelle des pères. Je le sais, j'en ai été victime. Mon père n'était pas présent. Puis en plus, il travaillait les fins de semaine. Il y avait les congés la semaine. Fait que j'ai jamais connu de fin de semaine avec mon père. Puis ce qui est dramatique, c'est que moi aussi, parce que j'étais énormément bloqué relationnellement, j'ai fait souffrir mes enfants à cause de ça. Tellement qu'il y a un psychanalyste, Guy Corneau, qui a écrit un livre « Père manquant, fils manqué ». Ça a été un best-seller. Et j'aimerais ça vous lire une partie de son livre qu'on peut retrouver à l'introduction. Le docteur Hubert Wallot, médecin et professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, s'étonnait devant une commission parlementaire sur la santé mentale qu'il n'exista pas de conseil de la condition masculine. Statistique à l'appui, il s'attacha à démontrer la précarité de la santé générale des hommes. Lors de l'enfance et de l'adolescence, les hommes présentent plus souvent que les femmes un retard mental, des troubles de l'attention associés à l'hyperactivité, des troubles de la conduite, de l'hyperanxiété, des difficultés schizoïdes, des tics transitoires ou chroniques, du bégaiement, de l'énurésie et de l'encoprésie fonctionnelle, ça veut dire uriner et déféquer involontairement, du somnambulisme et de la lenteur nocturne, de l'autisme, des troubles de développement persistants et spécifiques, comme la dyslexie. À l'âge adulte, les hommes occupent une place importante dans les catégories des troubles de la personnalité paranoïde, compulsive et antisociale, comme l'atteste leur nombre élevé dans les prisons. Les hommes dominent de loin en matière de transsexualisme, d'homosexualité et de perversion sexuelle. Et ensuite, le docteur Wallot note aussi que dans une proportion de 4 pour 1, les hommes souffrent d'alcoolisme et de toxicomanie. Ils dominent également dans une proportion de 3 pour 1 dans les suicides et dans les comportements à haut risque. Finalement, Ils sont aussi en surnombre pour ce qui est de la schizophrénie. Et le médecin de conclure que l'absence fréquente du père et des modèles masculins auprès du jeune enfant paraît expliquer certaines difficultés de comportement reliées à l'affirmation de l'identité sexuelle chez l'homme. Le rôle du père, l'influence du père, la marque du père. Et c'est pas pour rien que Jean veut qu'on puisse connaître le père. Pour résumer, et je termine cet extrait, on pourrait dire que sous le couvert de leur indépendance, les hommes ont besoin d'aide et cherchent leur père. J'ai pu constater moi-même cette grande soif masculine, ce grand besoin des mâles de se retrouver et de faire le point. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est les hommes, les filles, eux autres, je ne vous ai pas oublié, mesdames. Dans une entrevue intitulée « Père-fille, le premier regard d'un homme », sur la plateforme psychologie.com, on nous dit ceci. Dans « Père-fille », à travers des récits d'analyse, le psychanalyste Didier Lauru explore le lien père-fille et la manière, toujours complexe et singulière, dont il influence les choix de la jeune femme devenue adulte. Pour les filles, Didier Lauru va dire « J'ai effectivement été frappé par l'insistance avec laquelle les femmes sur le divan » parce qu'eux autres, en Europe, ils appellent ça un divan, là, c'est le fauteuil sur lequel les gens qui consultent vont parler à leur psychologue. Donc, j'ai effectivement été frappé par l'insistance avec laquelle les femmes sur le divan évoquent le regard de leur père au sens propre du terme, comme si ce regard, tour à tour teinté d'amour ou de déception, d'admiration ou de réprobation, était une espèce de baromètre de leur relation, comme s'il existait également un lien entre la qualité de ce regard et les difficultés qu'elles rencontraient dans leur vie amoureuse ou leur sexualité. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, à travers différents récits d'analyse, c'est comment le père, à la manière d'un sculpteur devant un bloc de pierre, anticipait la femme en devenir dans la petite fille et l'aidait à advenir. Son regard plus ou moins valorisant, en ce qui l'autorisera à accomplir sa féminité ou au contraire l'en empêchera. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu cites la psychologie, la psychanalyse, puis tu parles de la Bible? Bien, parce que tout simplement, c'est que la Bible, parce qu'elle est vraie, est tout simplement confirmée par la science, par l'observation. Ces psychanalystes-là, ces psychologues-là, ces psychiatres-là observent des phénomènes, puis ça fait juste confirmer ce que la Bible dit. Si je ne connais pas d'une manière expérimentale, d'une manière intime le Père, c'est sûr que ça va développer une soif pour une autre provision parce que j'ai été créé pour dépendre de lui et de son amour. J'ai été créé pour le connaître, j'ai été créé pour lui. On voit ça dans l'Épître aux Colossiens, on a été créé par lui et pour lui. Par Dieu et pour Dieu. Mes besoins affectifs peuvent juste être comblés par l'amour du Père. Oui, il va utiliser des gens, des circonstances qui vont nous démontrer qui est là, qui prend soin de nous. Et c'est pour ça qu'au chapitre 3, on va le voir, il nous parle justement, Dieu dit, Jean va dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, voyez. Dieu veut nous le démontrer, son amour. Il ne veut pas que ça reste caché. C'est sa volonté qu'on le découvre. Puis on va découvrir l'amour de Dieu en connaissant le Père. Parce que comme Jésus a dit à Philippe dans Jean 14, 8 et 9, si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à l'influence de notre adversaire. Parce que savez-vous qu'est-ce qu'il veut faire, lui, sa stratégie? Il veut nous diviser contre le Père. Il veut que, justement, on se distance du Père. Il veut nourrir dans notre esprit que c'est pas bon de dépendre du Père. C'est pas bon de dépendre de Dieu. Il y a quelque chose de mieux que ça. Et là, quand il dit au chapitre 2, verset 13, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, Dans le grec, c'est extrêmement puissant. C'est une petite phrase, mais extrêmement puissante. C'est justement l'image de mettre le pied sur la nuque. Oups, on dirait qu'il est... De mettre le pied sur la nuque, c'est un signe de victoire quand justement le gagnant avait le pied sur la nuque en disant, « Moi, là, ta vie ou ta mort dépend de moi. J'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Je suis le vainqueur. » Et c'est encore une fois, c'est une action passée qui a des conséquences au présent. On pourrait le... Si on le remastique, on pourrait le dire comme suit. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez expérimenté une parfaite victoire en naissant de nouveau, et bien maintenant, expérimentez cette même victoire contre votre adversaire lorsqu'il veut vous amener à succomber. » En d'autres mots, tu as goûté cette victoire-là, mais continue à y goûter parce qu'elle est acquise, cette victoire-là. L'ennemi veut toujours nous faire croire qu'il est plus fort que nous. Celui qui est en nous, pourtant la Bible dit, est plus fort que celui qui est dehors. Et comme je disais tout à l'heure, la stratégie du diable, justement, pour nous affaiblir, c'est qu'on puisse se battre contre lui en nous distançant du Père, parce qu'il veut nous faire croire, parce que c'est un menteur, il veut nous faire croire que Dieu n'est pas assez compétent pour nous combler. Il n'a pas ce qu'il faut pour nous combler. Il ne comprend pas ce qu'on vit. Il ne sait pas vraiment de quoi on a besoin. Il est loin, il est au ciel. Et même certains vont aller plus loin pour dire, il se fout bien de nous autres. Puis savez-vous l'argument qu'ils vont dire souvent? Mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait des famines? Puis pourquoi Dieu permet qu'il y ait des catastrophes? Et c'est pour ça que quand à un moment donné, tu te rends compte que tu accuses Dieu de tous tes maux, puis que tu réalises que tu as tort, parce qu'il te tend la main en disant, mais c'est parce que si tu parles comme ça, c'est que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mes motifs pour ta vie. Tu ne comprends pas mon plan. Et c'est là qu'on est appelé à se repentir. Et c'est pour ça qu'on a un avocat auprès du Père, parce qu'on a un accusateur qui nous accuse à cause qu'on a commis des fautes, mais également, sa raison, c'est de nous éloigner du Père. Et c'est pour ça que c'est important de choisir nos influences. Et comment on y arrive? Bien, lorsqu'on se laisse influencer par les Saintes Écritures. On a l'exemple dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus était amené au désert. Le diable, il dit, « Ah, t'as faim, hein? Pourquoi tu ordonnes pas que ces pierres soient changées en pain? » Il avait le pouvoir, il était Dieu. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas qu'à ce moment-là, il mange. Et là, il y aurait eu une division entre le Père et le Fils. Il y aurait eu une scission dans la Trinité. Et Satan voulait amener Jésus dans la tentation d'être autosuffisant. Tu n'as plus à dépendre du Père. Après ça, il va dire, « OK, jette-toi en bas, puis... les anges vont venir à ton secours, la tentation du spectaculaire. » Puis après ça, il dit, « Je vais te donner tous les royaumes du monde puis leur gloire. Tu as juste à te prosterner puis de m'adorer. » Au verset 9, la tentation d'être puissant. Puis après ça, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 10, « Retire-toi, Satan, en fait, il est écrit. » C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Mais à chaque fois qu'il était tenté, qu'est-ce qu'il répond au diable? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. À chaque fois que le diable le tente, l'amène dans une tentation pour dévier du plan du Père, pour passer à côté de sa mission, à chaque tentation, à chaque fois qu'il est éprouvé, il répond, il est écrit. Il revient avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il va nous dire, dans 2,14, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous avez, en d'autres mots, de l'assurance pour foncer. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Elle habite en permanence en vous. Et que vous avez vaincu, remporté la couronne contre le malin. » Et ça, c'est un mot puissant. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des compétitions, il y avait les Olympiques. Et quand celui remportait la couronne, par exemple, c'était pour contre la lutte, quand deux luttaient, et puis celui qui remportait la couronne, l'autre était vaincu, était humilié, puis il représentait un pays, une nation, un royaume, puis il pouvait avoir des dirigeants de ce pays-là qui pouvaient les battre par la suite, ou même les tuer parce qu'ils n'avaient pas remporté la victoire. Il avait été une honte pour leur nation parce qu'ils n'avaient pas remporté la victoire. Mais là, il dit, vous, là, vous n'êtes pas ceux qui sont dans la honte. Vous êtes ceux qui sont dans la gloire parce que vous avez remporté la victoire. Vous avez vaincu le malin. Comment on vainc le malin en étant fort? Puis comment en étant fort quand la parole de Dieu demeure, habite en permanence en nous? On doit se nourrir de la parole. On doit la méditer, on est appelé à ça, c'est ça qui va nous rendre forts. Vous savez une chose, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont jeûné plus qu'une journée, mais quand je me suis, à différentes reprises dans ma vie, je me suis mis à jeûner. Puis, quand on jeûne, il ne faut pas faire trop d'activité physique, parce que l'énergie est à petite dose. C'est pas sain d'aller aller au travail une journée puis rien manger pendant, puis là vous jeûnez pendant 3, 4, 5, 10 jours. Je veux dire, vous pouvez dans certains cas vous rendre à l'hôpital. Et bien de la même manière que la parole de Dieu dans le cœur, ce qui va nous rendre forts, ce qui va nous donner de la vitalité, ce qui va nous donner la force d'affronter les défis, c'est la parole de Dieu qui habite en nous. On s'en nourrit, on la mange, on s'en abreuve. Et la parole de Dieu vient l'influence par excellence pour connaître Dieu d'une manière vivante. Et lorsque la parole de Dieu, elle est là, elle est présente, le Saint-Esprit peut nous diriger, peut nous conduire. Et moi, ça me faisait penser à l'image. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film « Coach Carter » ? C'est un vieux film, ça. Mais il y a quelques scènes qui sont désagréables, là. Mais si on enlève ces quelques scènes désagréables, le fond de l'histoire puis la relation de cet entraîneur-là avec les jeunes est extraordinaire. Puis à un moment donné, lui, comme stratégie, le coach, il va dire, OK, il racontait des histoires, il racontait des filles qu'il a connues, puis il disait, Rita, elle est comme ci, elle est comme ça, pour leur dire, quand je vais vous dire Rita, vous allez avoir tel style de jeu. Fait que là, les adversaires, ils comprenaient pas, tu sais, qu'ils criaient, Rita, Rita. Tu sais, ben, je vous donne un exemple, là, je vous cite ça de mémoire. Admettons, c'est un style défensif, puis un repli, tu sais. Fait que lui, là, eux autres, les joueurs, quand ils entendaient le mot Rita, ils savaient quoi faire. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. On se nourrit de la parole de Dieu, puis à un moment donné, le Saint-Esprit nous rappelle un passage, nous rappelle un contexte biblique, et ça nous oriente dans notre choix, dans nos agissements, dans notre comportement. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que cette parole-là habite en permanence en nous. Et ça va nous amener à vaincre notre adversaire. C'est pourquoi, en conclusion, le premier pas s'opère lorsque le Saint-Esprit nous conduit à Christ pour le pardon de nos fautes. Ça, c'est le premier pas. C'est là qu'il y a la rencontre, je dirais, la rencontre ultime. C'est là que ça me rappelle qui je suis devant Dieu. Je suis techniquement en dette devant Dieu, à cause de mes fautes, à cause de mes pensées, à cause de mon comportement, à cause de ce que je suis un pécheur. Mais en même temps, j'ai été racheté puis me libéré de cette dette-là. Et je suis devenu son enfant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est appelé à le connaître, à connaître le Père au travers le Fils, puis à découvrir de plus en plus dans les Écritures celui qui peut nous amener à vaincre notre adversaire qui s'acharne sur notre cas. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, c'est dit que l'accusateur des frères, eh bien, jour et nuit s'acharne contre nous. Continuellement, il cherche à nous démolir. Savez-vous pourquoi? Parce que l'adversaire sait très bien que si on a la victoire sur lui, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont voir briller le Seigneur dans nos vies. Peut-être que tu es découragé de te battre. Peut-être qu'il y a des tentations qui reviennent, puis qui reviennent. Puis à un moment donné, tu te dis, « Ouais, mais je veux, mais j'arrête, j'arrive pas, puis je chute, puis je veux. » Puis à certains niveaux, tout simplement, ça demande de revenir à des disciplines spirituelles, à remettre un focus sur ton temps avec Dieu. Pour d'autres, ça va demander d'aller voir des frères, des sœurs pour prier pour toi. Puis avoir un groupe qui te soutienne dans la prière. Pour d'autres, mais c'est quelque chose d'encore plus profond. Tu as besoin d'un accompagnement plus serré avec des gens qui sont spécialisés dans ce genre de dépendance-là. Ça peut arriver. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous amener vers la victoire. Puis ça, c'est encourageant de savoir que si je m'approche de Dieu dans mes faiblesses, son but, ce n'est pas de me condamner puis de m'achever. Mais son but puis son cœur, c'est de m'amener vers la victoire pour que je puisse vivre libéré de ce combat-là. Mais savez-vous quoi? J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Jacques chapitre 4. Parce qu'on est le résultat de ce qui nous a influencés. Et laissons le Saint-Esprit nous influencer. Laissons le Saint-Esprit influencer notre cœur par la parole de Dieu. Laisse Jésus influencer tes pensées. Laisse le Père influencer ton parcours en acceptant sa volonté dans ta vie. Si tu veux ressembler à Jésus-Christ, laisse-toi influencer par lui parce qu'on est le résultat de ce qui nous a influencés. Comme François Mascotte, tiens ferme. Laisse-toi influencer par ce qui est juste, par ce qui est vrai, et surtout, comme le dit Maxwell, par l'amour de Dieu. Si c'est un combat, qu'est-ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7? Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Et donc, il va dire ici de soumettre à Dieu, parce que c'est là que je veux aller. Tu sais que c'est là le chemin. Il va dire de résister au diable et il va fuir loin de nous. Et après ça, ce qui est intéressant, il va dire, approche-toi de Dieu. Moi, c'est drôle, je l'aurais mis avant. Moi, j'aurais dit, mais il me semble, je dois m'approcher de Dieu avant de résister au diable. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que quand on connaît une victoire puis qu'on est libéré, c'est facile de dire, bon, mais je suis libéré maintenant, j'ai plus besoin autant qu'avant de Dieu. Tu sais, quand, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de dire ou d'entendre quelqu'un dire, hey, moi, là, quand ça va mal, ma vie de prière, elle se développe. Elle est pas mal plus intense que quand ça va bien. Mais ce que Jacques est en train de dire, c'est, ben, maintenant que ça va bien parce que tu as résisté au diable puis il a fui, ben, approche-toi de Dieu. C'est un peu ce que Paul disait, il dit, tenez donc ferme après avoir tout surmonté dans Éphésiens chapitre 6. Dans le combat spirituel, même si tu as surmonté, tiens ferme puis continue. Continue à te nourrir de la parole, continue à te battre, continue à prier parce qu'il va y en avoir d'autres combats. Puis comme j'ai cité tantôt dans Matthieu chapitre 4, à un moment donné, le diable fuit loin de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce segment-là, de ce passage-là? Il dit, Satan s'est en allé jusqu'à ce qu'il trouve une autre occasion. Et c'est pour ça, il pourrait dire, nettoie tes mains, en d'autres mots, fais le ménage. Puis purifie ton cœur, homme partagé, rends ton cœur inspirant, vénérable, en étant orienté vers la voie de Dieu dans ta vie. En d'autres mots, ici, quand il dit homme partagé, c'est tu flirtes entre la volonté de Dieu et ta volonté à toi. Mais là, quand tu fais face à des défis, choisis la volonté de Dieu. Puis si tu n'es pas assez fort pour ça, rapproche-toi de la parole, cherche à connaître sa volonté, crie à lui, frappe à sa porte, parce qu'il veut t'amener vers le chemin de la victoire. Laisse la parole de Dieu te convaincre. Demande à Dieu, il est où le raisonnement qui me bloque à avancer vers toi? Il est où la fausse image que j'ai envers toi? Vous savez, celui qui avait caché sa pièce de monnaie puis ne voulait pas la faire fructifier, c'est où? C'était quoi la raison? Parce que tu es un maître dur. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est dur, puis c'est pour ça que tu ne veux pas y laisser tout ton cœur. Et c'est là que la parole de Dieu, lorsqu'elle met en lumière nos motifs, comme on voit dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'elle est pénétrante, elle juge de nos sentiments, de nos raisonnements, eh bien, ça va nous amener à connaître la vérité qui va nous rendre libres. Et c'est là qu'on va être influencé par la plus grande et la plus puissante influence qui soit. Dieu lui-même. Recueillons-nous, s'il vous plaît. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Père, il y a des temps dans notre vie chrétienne, on dirait que tout coule. Tout vient tout seul, Seigneur. Puis il y a d'autres temps, c'est ardu. Il y a des temps où est-ce que c'est les épreuves qui nous tombent dessus, puis on ne peut rien y faire, c'est des circonstances qu'on ne contrôle pas. Mais il y a d'autres temps, on est placé face à des choix, on est dans un combat, Seigneur, puis la victoire semble à nos yeux impossible. Mais Seigneur, comme quelqu'un a dit un jour, quand un obstacle semble plus gros que nous, on doit apprendre à faire confiance en un plus grand que nous. Tu es plus grand que nos obstacles. Apprends-nous à te connaître, à découvrir que tu nous aimes, à découvrir que ton plan pour nous est bon, agréable et parfait, même s'il est rempli d'embûches, même s'il peut être décourageant par moments. Parce que ta volonté, c'est nous amener à expérimenter cette victoire que tu nous as donnée lorsqu'on est né de nouveau. Puis si quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'a pas reconnu qu'il était rebelle devant Dieu, que tu agresses Dieu par tes raisonnements, par tes actions, par tes pensées, mais il t'offre maintenant le pardon. Il veut que cette lutte entre toi et lui soit terminée en reconnaissant que celui qui a payé pour tes fautes, parce que tu es coupable devant lui, c'est Jésus-Christ, le seul qui l'a fait. Il y en a juste un qui peut payer pour tes fautes, c'est Jésus-Christ. Et moi, je me souviens, le 14 janvier 1984, c'est imprimé dans ma mémoire. Je savais qu'il était le Sauveur. Et je me suis laissé convaincre par lui pour qu'il me sauve et qui m'amène à marcher dans une nouvelle vie, inspiré par lui, influencé par lui, guidé par son Esprit Saint, par sa parole. Mais peut-être que tu es devant ton ordinateur, peut-être que tu es devant l'écran, puis tu écoutes ça, puis tu dis non, c'est trop facile, c'est trop simple. Seigneur, je demande que cette personne-là puisse cesser de résister, parce que toute une éternité qui en dépend. pour ceux qui sont déjà sauvés, qui ont déjà expérimenté d'avoir été sauvés par Jésus-Christ. Je te demande de les encourager. Je te demande d'encourager chaque membre de cette Église ici afin qu'on soit une source d'inspiration, une source de vie pour la région de l'Outaouais. Pour que des gens puissent voir au travers de nous, non pas des gens parfaits, mais des gens remplis d'espoir, remplis de vitalité. Que des gens disent, comment tu fais pour passer au travers ces épreuves-là? Comment tu fais pour faire face à ces défis? Eh bien, qu'on entende dire, je le sais même pas moi-même, je sais juste qu'il y a quelqu'un de plus fort, de plus grand que moi qui me soutient. Et j'ai de l'assurance. Mais quand je m'en viens devant lui, je me sens petit et faible. Mais quand lui me remplit, je me sens fort. Et c'est pour ça que je sais que cette force-là ne vient pas de moi. Elle vient de lui. Puis c'est pour ça que je peux te regarder dans les yeux et te dire que Dieu est vivant. Seigneur, que ce message se répande pour la gloire de ton nom. Et puisses-tu spécialement édifier puis encourager les pasteurs de cette église qui devant toi prient, qui devant toi cherchent ta face pour cette église ici dans la région. Qu'ils soient encouragés, Seigneur Dieu. Et que la construction de ces ailes, que cet agrandissement, Seigneur Dieu, puisse juste être une ouverture pour cette bénédiction que tu veux amener ici, ici à Gatineau. Et dans le mandat que tu as confié à cette Église, pour la gloire de Jésus-Christ seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.